Philippe Lesalès, merci d'être avec nous, merci de répondre à nos questions. Vous êtes rédacteur en chef de Radio One. Les Chagos se retrouvent de nouveau ce mercredi au centre de l'actualité internationale. Pourquoi ce territoire peu connu est-il considéré comme l'un des derniers vestiges de l'Empire britannique?
Vous savez dans quelles circonstances, de toute manière, ce territoire a été excisé de notre patrimoine naturel, si je puis m'exprimer ainsi. Cela représente les derniers vestiges forcément d'une colonisation, parce que malgré toutes les violations qui ont été faites contre les lois universelles, contre les principes fondamentaux des Nations Unies, contre l'état de droit, l'Angleterre a toujours maintenu cet accaparement, cette domination et partant l'administration de ce territoire. On connaît, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, sur ce que tout le monde connaît, l'Angleterre a troqué à l'époque avec le gouvernement travailliste l'indépendance contre une partie de notre territoire. Bien évidemment, ce serait bien d'être wise after the event, mais à l'époque, compte tenu des circonstances, compte tenu des informations dont on disposait, le gouvernement croyait qu'on allait, les Américains allaient établir, ou les Anglais allaient établir à Diego une station météorologique. Donc il s'est avéré que c'était pour les Anglais. On a accaparé le territoire, loué ce territoire aux Américains, et une base militaire a été installée sur Diego Garcia. Et pendant les années précédentes, cette installation, il y a eu excision qui rimait à l'époque avec déportation. Je crois pas que le terme soit désinvolte ou léger. Il y a eu déportation de tout un peuple chagossien. Comment on avait gazé, brûlé les chiens des chagossiens? Comment ceux qui étaient venus, qui prenaient le bateau pour venir, pour avoir des soins médicaux à Maurice, n'étaient même pas au courant qu'ils n'allaient pas revenir? Comment tout ce beau monde a été parqué dans des navires et exporté vers Maurice dans des conditions que l'on sait, avec quelques compensations financières mal gérées au départ, qui, par exemple, a fait des Chagossiens des citoyens de seconde zone, parqués dans des dortoirs dans les banlieues port-louisiennes, avec tout ce que cela suppose. Voilà pourquoi il y a un intérêt. Parce que depuis les années 70, les partis politiques de l'opposition, d'une part, ont réclamé le rôle d'abord la démilitarisation de l'océan Indien, parce que nous avions à l'époque, comme vous le savez, tout le soutien des pays non alignés, et surtout aussi, il faut le dire, de l'Union soviétique, qui menait campagne, justement, pour des raisons géopolitiques différentes des nôtres, la démilitarisation de l'océan Indien. Donc, tout ça, heureusement, par la suite, le débat a pris une autre tournure. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis, par exemple, depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui, il faut le dire, il faut rendre à César ce qui est à tout le monde, tous ces gouvernements se sont battus à leur manière pour la rétrocession, justement, de ce territoire. Donc voilà dans quelle situation on est aujourd'hui. Il faut dire aussi, là je me laisse un peu aller, toutes les tactiques qui ont été utilisées par la Grande-Bretagne justement pour faire obstacle à ce retour des Chagos. D'abord, en brandissant avec raison que cela représente un fer de lance pour la défense des valeurs de l'Occident. Okay. On peut accorder ça. Ensuite, ça a été la création des parcs marins. Il a fallu se battre contre ça aussi. Ils voulaient accaparer ce territoire-là. Ensuite, ils ont accordé la citoyenneté britannique à plusieurs Chagossiens, à l'époque, je disais, justement pour casser cette belle élan d'unité qu'il y avait au sein de la communauté chagossienne, en ne sachant pas que, éventuellement, que tout le monde allait se retrouver éventuellement pour se battre contre cette occupation. Et puis, il y a eu des pressions les plus insoutenables. Je me souviens quand Bill Morris avait pris la décision, par le truchement de Sir Neville Jonath à l'époque, de présenter une résolution à la Cour internationale, aux Nations Unies, pour aller vers la Cour internationale de justice. les représentants des États-Unis et de la Grande-Bretagne, à Maurice respectivement, sont allés carrément menacer le Premier ministre dans son bureau, lui intimer l'ordre de ne pas y aller parce que cela pourrait avoir des répercussions sur les relations commerciales entre l'Angleterre et l'île Maurice, entre l'Angleterre et entre l'île Maurice et les États-Unis. Là, c'est devenu intenable, mais heureusement, le gouvernement a tenu bon, avec tout le soutien du groupe africain, comme vous le savez, le groupe africain, où nous avons pu avoir un avis favorable en février dernier, avec une très belle majorité.
Pour les Sagossiens, c'est un combat long de 50 ans. Vous qui suivez leur lutte, nous l'avons bien compris. Voyez-vous un dénouement en leur faveur pour bientôt ?
C'est pas que je voudrais jouer au Cassandre porteur de mauvaises nouvelles. Nous avons vu dans le passé qu'est-ce qui s'est passé. Il y a le cas du Nicaragua en 86, où la Cour a donné raison au Nicaragua, mais où les États-Unis n'ont absolument rien fait. Il y a eu un autre cas où la Cour a donné raison aux prisonniers politiques pour le droit de vote. L'Angleterre, 12 ans après, a consenti. Donc il faudra, d'autant plus que c'est un avis consultatif qui n'est pas contraignant, comme vous le savez. Comment forcer les Britanniques à nous rendre un territoire qu'ils ne veulent pas nous rendre? Et je crois que le gouvernement mauricien a été très bien inspiré de dire, écoutez, pas de panique. Nous, ce qu'on veut, on ne veut pas le démantèlement de la base. Parce que cela représente un fer de lance, un bouclier pour la protection de la région. Tant mieux pour nous, à Maurice, qui sommes tout à fait vulnérables. Là, je crois comprendre, là, en ce moment même, à New York, les Britanniques disent pour la sécurité. On veut bien, malheureusement, ben oui, d'accord pour la sécurité. Nous, on ne veut pas démanteler la base. On veut négocier. Nous sommes les propriétaires. Vous, en tant que squatteurs, vous ne pouvez pas toucher l'argent de la location. Je crois que tout le monde comprend ça. Ce sont des squatteurs qui sont venus là et qui veulent nous traiter, nous, comme des locataires. Combien de Sagossiens qui restent qui voudraient retourner là-bas? Quelques nostalgiques, certainement, pour aller voir le cimetière, pour un besoin de retour au cahier natal, comme Césaire disait à l'époque. Donc ce dénouement-là, je crois que quand toute cette génération va disparaître, il ne restera plus de personne pour aller vouloir retourner là-bas. Et puis, si la base est maintenue, quelle infrastructure, quel moyen de transport? Tout cela va certainement poser problème. Donc le combat pour le retour, je dis bien, le combat pour le retour des Sagossiens dans leur ville natale va être encore très très long. Il y a beaucoup qui ne vont pas arriver jusqu'au bout, ne vont pas retrouver la terre promise.
Le Royaume-Uni continue à dire que la base militaire américaine à Cabrit Diego Garcia, l'île principale, permet de défendre le monde contre le danger terroriste. Londres et Washington ont le droit de veto au Conseil de sécurité. Cette lutte des Sagossiens est-elle donc loin de terminer?
Elle n'est pas terminée, elle ne se terminera pas de sitôt. Pour la première partie de la question, je réponds sans état d'âme parce que c'est la posture du gouvernement mauricien. Le gouvernement mauricien a maintes fois fait savoir qu'il n'a aucune objection au maintien d'une base militaire à Diego Garcia dans le but justement d'agir comme un bouclier pour la région et éventuellement nous protéger parce que nous sommes tout à fait vulnérables. D'autant plus qu'aujourd'hui même a été voté des amendements au Terrorism Bill à Maurice. Donc, nous n'avons aucun état d'âme sur la question, si vous voulez, que la base doit rester. Sauf que nous voulons, comme je viens de le dire, avoir de l'argent. Et si cette posture se maintient, il sera très très difficile d'effectuer le retour des Sagossiens éventuellement là-bas. Est-ce que le gouvernement mauricien n'a pas tout intérêt aussi à traîner un peu la patte? Parce que la victoire était très psychologique pour le gouvernement mauricien. Il va jouer là-dessus pour sa campagne électorale de toute manière, mais est-ce que le gouvernement mauricien voudrait que les Sagossiens partent là-bas? Il y a des vœux pieux, des bonnes intentions qui se sont exprimées, mais il n'y a absolument aucune garantie que les Sagossiens pourraient retenir. Alors, à côté, il y a une grosse base, avec tout ce que cela suppose, vous devinez, et à 10 mètres plus loin, quelques Sagossiens vont aller pêcher. Ça paraît assez surréaliste et c'est ainsi que je vois cette situation. Donc ce retour-là à mon sens, sera très laborieux et à la limite, peut-être, ne s'effectuera jamais. Parce que tout ce qui s'est passé, vous avez suivi l'actualité comme moi, tout ce qui s'est passé a donné un immense espoir à la communauté sargossienne. Certains croient que demain, nous prenons un avion, nous prenons un bateau, nous disons allons. Voilà le sentiment qui prévaut au sein de la communauté. Parce que cette lutte-là est enivrante, cette lutte-là est exaltante, un combat pour l'indépendance, pour l'état de droit. Mais dans la réalité, ça risque d'être tout à fait autre chose. Voilà.
Finlay Salès, vous êtes rédacteur en chef de Radio One. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.